Ah, bonjour. Horticulture divine. Dans un passé qui devient maintenant lointain, j'ai été ouvrier horticole. Je me souviens encore de longues journées lors desquelles nous avions du rempotage, par exemple. Il y avait des terrines de semis avec des toutes petites pousses de telle ou telle plante que les repiqueuses, c'est comme ça qu'on les appelait, prenaient à la pince à épiler pour mettre dans un petit godet à peu près de 2 cm de large et 3 de profondeur. Ce petit godet, on le laissait ensuite un moment et quand la plante avait commencé, le tout petit semis avait commencé à avoir des racines, on le rempotait. On avait des machines qui avaient des pots plus gros et qui faisaient un petit trou. Et nous, le travail que nous avions autour de cette machine à rempoter, c'est comme ça que ça s'appelait de mon temps, nous prenions un de ces petits godets donc, qui pouvait se détruire, qui était biodégradable, et nous le mettions dans le trou. Ça, pendant des heures et des heures. C'était du travail. On n'imagine pas, quand on voit une balconnière de géranium, tout le travail qu'il y a derrière pour les horticulteurs, qui sont des gens qui travaillent dur. Et puis, quand, par exemple, on avait ces pots, il fallait les arroser. Et quand l'arrosage, c'est tout un travail. Je me souviens que le patron se levait au printemps à 4 heures du matin, comme certaines personnes que je connais par ici, et il arrosait. Il avait des grandes lances avec un pommeau au bout et il arrosait. Parce que sans arrosage, tous ces plantes-là mouraient. Et puis, nous avions un système que nous appelions le système goutte à goutte, où chaque fois qu'il y avait un pot, on le faisait notamment dans les pépinières, où les arbres étaient aussi dans des conteneurs. Des petits arbres prêts à vendre, qui faisaient 2 ou 3 mètres de haut, il y avait un conteneur et nous devions planter une tige métallique qui était au bout d'un tuyau, d'un petit tuyau, et ensuite une goutte tombait et une autre pendant toute la journée, toute la nuit. Et c'était le meilleur système d'arrosage qui existait à l'époque. Je ne sais évidemment plus du tout comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est des souvenirs que j'ai appris, enfin qui sont gravés dans ma mémoire, même si ça fait plus de presque 30 ans que j'ai arrêté, parce que je l'ai fait pendant des heures, hein, quand vous avez mal aux reins, vous avez mal partout, vous êtes baissé, quand on meurt de chaud, enfin voilà, il y a tout. Mais tout ceci, tout ce travail repose sur un principe fondamental. Les plantes poussent. Parce que imaginez que tout ça, qu'on sème des grains de sable, par exemple, dans la terre, ou du gravier, on pourra l'arroser, on pourra mettre... Ça ne va pas pousser. Les plantes poussent. Et le travail de l'horticulture est important, et lourd, et fatigant, etc. N'empêche que tout ça a du sens parce que les plantes poussent. Le mécanisme de la vie est cultivé. Et c'est ce que Paul utilise comme expression dans la lettre aux Corinthiens, le texte qui m'a été proposé pour aujourd'hui. Chapitre 3, verset 6. « Moi, j'ai planté, dit l'apôtre Paul, horticulture divine. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Le contexte de cette image que Paul utilise est assez tendu, à vrai dire. Il y a des divisions dans l'église de Corinthe. Alors, je m'en amusais tout à l'heure, hein, à l'église de Corinthe, il y avait les gens du bas et les gens du haut, peut-être, je ne sais pas. C'était bien plus grave que ça. Il y avait des luttes d'influence. Certains se disaient « Moi, je suis du parti de Céphas, moi, je suis du parti d'Apollos, moi, je suis du parti de Paul. » Il y avait des esprits partisans. Au chapitre 1, l'apôtre Paul... chapitre 1, vous avez remarqué, si vous savez encore compter, que c'est le premier chapitre, c'est le début de l'épître. Donc dès le début, Paul attaque sur ce sujet de la, des divisions, chapitre 1, verset 10, « Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. » Paul fait des reproches aux Corinthiens très tôt dans sa lettre donc, « Car avec leur division, ils ne valent pas mieux, tout chrétiens qu'ils sont, que les humains les plus ordinaires. » C'est ce qu'il explique au chapitre 3. Il n'y avait que les Corinthiens. Tous ces problèmes de division sont finis depuis des siècles dans l'Église, heureusement. Et c'est là que Paul va insister sur notre position de simples serviteurs et servantes. Chapitre 3, cette fois verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos, donc grand missionnaire de l'Église primitive, met l'interrogation de Paul. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Paul parle de lui-même. Des serviteurs, par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Les apôtres, des grands hommes, missionnaires de haut niveau, des pointures, des carrures. Non, des serviteurs. Alors, pas de quoi se bagarrer pour eux, pour de simples serviteurs. Car l'important n'est pas le serviteur, mais le maître. D'autant plus que, dira-t-il un peu plus loin, au verset 8, « Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un. » Il est vrai que dans mon passé d'horticulteur ou d'ouvrier horticole, nous étions une équipe, que l'un arrose et que l'autre rempote, c'était le même travail. Et l'important n'était pas ce que l'un ou l'autre faisait, c'était le résultat. C'était la plante qui allait pousser. L'apôtre Paul décrit la condition des chrétiens comme servantes et serviteurs pour couper l'herbe sous le pied aux fauteurs de troubles, de divisions. Si les serviteurs ne sont que des serviteurs, et ne sont pas des maîtres à suivre, et si en plus ils travaillent ensemble, ils ne sont qu'un, où y a-t-il matière à division ? Bien sûr, chacun sera reconnu pour ce qu'il a fait, ce qu'il aura fait, verset 8 le dit aussi, celui qui plante et celui qui arrose de son qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Les plus méritants, sous-entend-il, si on lit entre les lignes, ne seront donc pas ce qu'on croit. Et d'ailleurs, la suite du texte, alors je ne vous le lirai pas, à partir du verset 10, raconte justement cette question de construire. Alors il utilise cette fois l'image du maçon. Ça nous parle en ce moment, l'image du maçon. Hein. Construit solidement ou pas solidement. Bon, pour nous, j'espère que c'est solide, nos bâtiments. Construit sur les bonnes fondations, construit de manière durable ou pas durable. Et Dieu fera le test, en quelque sorte. Et puis, il y a cette petite phrase très encourageante, mais qu'il faut savoir lire dans ce contexte. Nous sommes des collaborateurs de Dieu, des gens qui, littéralement, c'est ce que veut dire collaborateur, travaillent avec Dieu. Autrement dit, si nous sommes des collaborateurs de Dieu, qui, entre Dieu et nous, va être le plus important ? Ah ben, c'est Dieu. Nous ne sommes que serviteurs et servantes. Première leçon de ce texte, unis au service du maître. Avec cet état d'esprit du simple serviteur travaillant avec Dieu, nous bannirons plus facilement les disputes pour savoir qui a raison, les recherches de pouvoir, car elles existent, ce désir de dominer sur l'autre, de dominer l'autre, cette recherche d'influence que nous avons parfois, comme par une soif d'exister, de vouloir être le plus important, d'avoir de l'influence sur le maximum de personnes, d'avoir plus d'influence sur les gens qu'un tel ou qu'une telle, d'être reconnu comme plus sage, plus instruit de la Bible, plus crédible dans sa foi, etc. Ces recherches qui s'appellent de l'orgueil, en fait, nous les avons tous, de manière naturelle, plus ou moins maîtrisées dans nos vies, mais elles existent. Et ce que Paul nous enseigne ici, c'est tout simplement « Calme-toi, mon gars. Prends plutôt la livrée du serviteur. Agis comme un serviteur aux côtés de son maître. » Et toutes ces recherches de pouvoir s'éloigneront de toi. Qui fait vraiment le travail ? N'oublions pas l'image de l'horticulteur qui peut arroser, semer, rempoter, tailler, etc. Si la plante ne pousse pas, il travaille en vain. D'ailleurs, ça arrive chez les horticulteurs, il y a toujours des semis qui ne lèvent pas. Mais ça ne dépend pas de l'horticulteur. Pour beaucoup de choses, il y a des choses qui ne dépendent pas de lui. C'est frustrant d'ailleurs pour un horticulteur de savoir que tout ne dépend pas de lui. Dans l'Église, c'est la même chose. Calmons-nous. Qui fait vraiment le travail ? Qui fait vraiment pousser la parole de Dieu dans les cœurs ? C'est l'Esprit de Dieu. Nous pouvons arroser, nous pouvons agir, nous pouvons organiser, faire des... Je peux faire allusion au café-concert que nous organisons vendredi, mais il y a de multiples autres choses. Mais de qui la vie de l'Église dépend-elle, en fait, au fond ? De Dieu, de Jésus, qui, la tête du corps, donne la subsistance au corps, de l'Esprit de Dieu, qui irrigue toutes les plantes que nous sommes. Cela nous encourage à avoir une position d'humilité dans le corps de Christ, de savoir s'effacer, ne pas chercher à laisser sa marque, mais simplement s'effacer devant la grandeur de Dieu. Cela désamorcera les tensions, cela désamorcera les esprits partisans. Et puis ce texte nous pose une deuxième et une dernière question, en tout cas pour moi ce matin, il y en a peut-être d'autres. Pourquoi Dieu nous tient-il comme ses collaborateurs ? Ah, il est écrit, alors on peut le prendre comme on bombe le torse, on dit « Nous sommes les collaborateurs de Dieu !» Pas du dernier sous-fifre du coin de la rue, mais de Dieu. Alors, ce n'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est, attends, si on est collaborateur de Dieu, déjà, nous, on se calme. Parce que c'est Dieu qui est Dieu, nous pas. Mais l'autre question que pose ce texte, c'est pourquoi Dieu travaille avec nous ? Pourquoi il a choisi de nous faire ses collaborateurs ? Ne s'est-il pas planté tout seul, lui ? Est-ce qu'il a vraiment besoin de nous pour arroser ? Si nous sommes si secondaires que ça, parce que c'est quand même ce que ce texte nous enseigne, pourquoi Dieu nous veut-il autant à l'œuvre ? Pourquoi y a-t-il des missionnaires dans cette salle ? Pourquoi y a-t-il des chrétiens qui ont donné un témoignage formidable dans leur vie ? Pourquoi cela a-t-il été nécessaire ? Dieu a-t-il besoin de nous ? N'y arriverait-il pas tout seul à répandre l'Évangile ? Oui, il y arrive tout seul, c'est vrai. Nous entendons régulièrement des récits de personnes qui ont été touchées sans qu'un le moindre missionnaire l'ait approché de près, ou le moindre chrétien l'ait approché parce qu'il y a eu un rêve, parce qu'il y a eu une vision, parce qu'il y a eu une conviction débordante qui est née dans son cœur, parce qu'il y a eu un événement qui a déclenché quelque chose dans sa pensée. Et du coup, cette personne s'est ouverte à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc oui, Dieu peut se passer de nous. Mais non, Dieu ne se passe pas de nous. Dieu n'a pas besoin qu'on le serve comme un maître maladroit qui ne saurait pas faire ce que nous faisons. Dieu n'a pas besoin qu'on le transporte comme un maître impotent qui aurait besoin qu'on le balade à droite et à gauche. Ce n'est pas l'image des serviteurs de Dieu que je vous propose de conserver. C'est l'image plutôt de travailler avec lui. D'ailleurs, dans ce texte, au début, je me dis, oui, nous sommes serviteurs de Dieu. Bon, en même temps, ce n'est pas faux. Mais ce texte dit que nous travaillons avec Dieu. Pas que nous sommes ses serviteurs. Moi, en tout cas, c'est l'idée que je souligne au verset 9. Collaborateur de Dieu. Reprenons encore l'image de l'horticulture, si vous permettez. Je ne sais pas s'il m'a pris le repas. C'est peut-être les fruits de l'automne, les journées d'octobre, je crois que ça approche. L'horticulture, et ce serait valable pour la culture, l'agriculture, l'horticulture n'est pas la nature. J'aime bien aller au zoo. Le zoo de Mulhouse est magnifique. Et qui a dit oui ? Ah oui, 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 il est beau, hein. Mais ce n'est pas qu'un zoo. Ce que je préfère dans le zoo de Mulhouse, ce ne sont pas les animaux. C'est les plantations. Vous êtes déjà... Alors, si vous n'y êtes pas allé, je vais faire de la pub. Allez dans le jardin des azalées au printemps. C'est extraordinaire. Vous êtes dans un jardin qui fait plusieurs fois cette salle, hein, largement. Vous pouvez marcher au milieu d'énormes azalées qui font 2-3 mètres de haut, qui sont donc en fleurs au printemps, et qui ont des couleurs mais magnifiques. C'est un jardin dans lequel l'homme a mis la nature en beauté. Ces azalées-là ne sont pas venues tout seules. Quand on va visiter un jardin, je pourrais vous parler des plantations d'Alia aussi, ou de certains arbres, ou de... Enfin, tulipes, bon, aussi, enfin bref. Mais les azalées, c'est les plus beaux. Et rhododendron avec, hein, c'est les plantes de terre de bruyère. Et quand on va visiter un tel endroit, on se dit, la nature est belle. Moi qui suis chrétien, je dis bravo à mon Créateur. Mais je dis aussi bravo aux hommes et aux femmes qui ont bêché, qui ont cultivé, qui ont arrosé, qui ont planté, qui ont taillé, qui ont tondu la pelouse, etc., etc. Il y a tout un travail. Un jardin, c'est un lieu où l'homme et la création sont en harmonie. On va dans un jardin, pas dans le même état d'esprit que quand on va dans la nature. Parce que la nature, l'homme, et c'est à souhaiter et à conserver, n'y a rien fait. Le jardin, l'homme a conjugué son action avec la nature. Il l'a mise en valeur. Le principe du jardin me plaît et je vous propose un parallèle avec celui de l'Église. Et c'est comme ça que j'explique que Dieu choisit de nous utiliser, de nous mettre au service, à son service. L'Église, c'est le jardin de la grâce. Plaise à Dieu que quand il y a des gens qui franchissent qui viennent nous voir, eh bien ils voient comme une plantation de choses que Dieu a faites, mais que nous avons su mettre en valeur dans notre Église. Que notre Église soit un jardin de la grâce divine, où l'action de Dieu dans les cœurs est cultivée, mise en beauté. Où les jardiniers que nous sommes toutes et tous prennent soin des semis d'amour, des boutures de joie et de paix, des replants de patience et de bonté, des graines de bienveillance et de foi, des pieds de douceur et de maîtrise de soi. Je fais allusion au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Et que des gens qui visitent notre Église puisse l'un admirer un semis d'amour, l'autre un pied de douceur. Que les gens qui visitent notre Église y voient les bienfaits de la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos relations, mis en valeur par nos louanges, comme nous l'avons fait ensemble ce matin. Un jardin, c'est un lieu habité. C'est un lieu où il y a l'homme, l'être humain, je veux dire. Je me souviens que cet été, nous sommes allés dans de la famille et une des personnes chez qui nous étions avait un jardin Je l'ai surnommé ce jardin le jardin d'Ali Baba. Parce que c'était un jardin foisonnant de toutes sortes de choses. Apparemment, dans un certain désordre, il n'y avait pas, vous savez, les potagers tout droits avec les allées, puis clac, clac, comme ça, paf, paf. Non, rien. Alors là, il fallait sylver, on passait en dessous, au-dessus, etc. Et c'était magnifique, parce que Laurent, il s'appelait Laurent, me disait, tu vois là, cette plante-là, eh ben, alors je l'ai mise avec l'autre, et puis... Et voilà que cet homme m'expliquait, mais avec amour, tout ce qu'il avait fait dans son jardin, et si tu fais si tu utilises telle plante, ça enlève les champignons, c'est, tout est bio, tout est naturel, pas de produits, regarde comme c'est beau. Ayons ce même enthousiasme quand nous faisons visiter notre communauté. Jardin de la grâce de Dieu. L'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait pousser, qui fait croître. Faisons en sorte que notre jardin soit un lieu où on a envie de s'asseoir. Quand je vais aux eaux de Mulhouse, je ne l'ai jamais fait en fait, mais j'aimerais bien une fois, emmener mon sac, puisque maintenant on peut travailler un peu partout avec le... Déjà, la Bible est portable, ça c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, les ordinateurs, et tout, on peut se connecter sous un cerisier, enfin c'est magnifique. J'aimerais bien aller aux eaux de Mulhouse et m'asseoir sur un banc, en dessous d'un arbre, dans un petit recoin, et profiter du travail que les jardiniers ont fait. Me mettre, alors, bon, sur le coup, si c'est au printemps, vous saurez où je serai. Et puis être là, ouais, je m'assieds, je suis bien. Que notre église soit ce jardin où les gens viennent, s'asseyent et disent « Je suis bien ». Que nous soyons des jardiniers qui mettent en beauté dans nos vies, dans nos relations, la grâce de Dieu. L'homme et la nature ou la création sont en harmonie dans un jardin. L'être humain et le créateur sont réconciliés. Dans l'Église. Vivons et faisons vivre cette réconciliation. Nous voulons que le jardin de la grâce soit beau dans son ensemble. Il ne s'agit pas de dire, tiens, bah, tu vois mon petit secteur, là où je cultive les tulipes, il est quand même vraiment, vraiment plus beau que le tien. Mes tulipes sont quand même plus belles que les tiennes, mon gars. Là, on retombe dans les divisions que Paul décrit ici et qu'il condamne. Si nous voulons que le jardin soit beau dans son ensemble, c'est que nous allons tous, à notre manière, faire qu'il soit beau. Que ma partie, la partie que j'aurai dont j'aurai à m'occuper, soit belle. Qu'elle soit plus belle ou moins belle que celle d'à côté, mais ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est que moi, la partie de mon jardin soit belle. Que quand je suis chargé du ménage, par exemple... Eh bien, ce soit bien fait. Que quand je m'occupe d'une classe d'école du dimanche, comme il y a des personnes qui le font en ce moment, ce soit un moment de bonheur et un moment d'ouverture spirituelle, d'ouverture à la foi pour les enfants. Que quand je m'occupe de la louange, les gens soient émus et touchés, comme nous l'avons été ce matin, parce que vous nous avez dit et fait chanter, ou chanter avec nous. Quand je m'occupe de l'administration, que le Seigneur me garde du découragement déjà, et ensuite que ce soit bien fait, comme un témoignage d'une église où on a plaisir à venir, qui fait les choses dans l'ordre. Quand je propose une méditation, comme ce que je fais avec vous ce matin, que ce soit aussi de mon mieux, pour faire que ce soit un bon moment pour les autres, j'espère. Quand je fais l'accueil à l'entrée, comme quelqu'un le fait en ce moment, mais que cet accueil soit souriant, parce que c'est ma partie, ce sont mes tulipes. Je veux qu'elles soient belles. Nous sommes au service ensemble, tendus vers le même but. Que les personnes qui viennent visiter le jardin aient envie de s'y asseoir. Cultivons ensemble. Soyons des horticulteurs ensemble. Taillons nos mauvaises habitudes. Arrachons nos violences. Nourrissons nos enthousiasmes fragiles. Replantons des boutures de consécration. Tutorons, ça existe, hein, le verbe tutorer, je ne sais pas si tutorer, en tout cas on l'utilisait. Mettons un tuteur. Tu te romps nos vies quotidiennes avec un peu de discipline. Faisons le chantier des bâtiments ensemble. Je n'ai pas cité la commission bâtiment, mais je vois le désir que ce soit bien fait, que nos bâtiments soient bien faits. Et on en voit l'heureuse concrétisation, même si il y a certainement beaucoup de choses que la commission voit que nous, benoîtement, nous ne voyons pas. Problème. Louons Dieu ensemble. Soyons des jardiniers de la louange ensemble. Faisons vibrer nos voix, nos cœurs, ensemble. Étudions ensemble cette profonde, inépuisable parole de Dieu. Les uns feront du grec, les autres feront de l'hébreu pour bien comprendre cette parole. Les autres vont la découvrir, vont se demander ce qu'il y a dans l'évangile de Matthieu, c'est le programme de cette année. Puis je pourrais citer encore d'autres choses. D'autres vont l'étudier plus profondément. Soyons des jardiniers ensemble de la solidarité, de tout ce que nous faisons en matière d'amour du prochain. Nous voulons que les visiteurs du jardin soient apaisés, soient encouragés, découvrent le Seigneur et la joie de la foi en lui, découvrent la grâce de Dieu qui pardonne nos péchés quand nous venons à lui dans le repentir et la confiance. Nous voulons que nos visiteurs eux-mêmes deviennent des jardiniers avec nous pour cultiver le jardin de la grâce. Ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Louons Dieu ensemble. Nous te remercions, Seigneur, parce que ce que nous plantons, ce que nous arrosons, c'est une semence de vie. Une semence éternelle. Nous te remercions parce que nous ne faisons pas un travail vain. Peut-être quelquefois il y a du découragement parmi nous. Il y a aussi de l'énervement. Il y a de la tension. Chacun essaye de faire bien, puis quelquefois il y a aussi un peu d'orgueil qui se met. Alors cette parole de Paul aux Corinthiens, nous la prenons pour nous, Seigneur. Je la prends pour moi. Apprends-nous à nous considérer comme des serviteurs, des servantes, ensemble, à cultiver ta grâce parmi nous. Apprends-nous à considérer notre Église comme ce jardin de la grâce que nous voulons accueillant et que nous voulons propice à ce que de nombreuses personnes se tournent vers toi, te découvrent comme leur sauveur et leur Seigneur. Touche nos cœurs, Seigneur, nous confions en toi. Amen.